Bonjour et bienvenue dans Bretonne, un podcast qui vous propose chaque semaine de découvrir une femme au parcours singulier et inspirant.
De Rennes à Quimper, de Morlaix à Lorient, nous, quatre étudiantes rennaises, sommes allées à la rencontre de ces Bretonnes pour parler de ce qui les passionne, qu'elles soient sportives, femmes politiques, artistes ou encore entrepreneuses.
La réalisation de ce podcast a été possible grâce à la participation d'Harmonie Mutuelle, que nous remercions chaleureusement.
Cette semaine, nous vous proposons d'écouter notre échange avec Vanadis, DJ rennaise de musique électronique. Et c'est moi, Olivia, qui ai mené la discussion. Elle nous a raconté son expérience dans un milieu musical bienveillant, nous a parlé des relations compliquées avec les riverains à Rennes. Elle nous a également partagé ses réflexions sur l'uniformisation du monde de la musique électronique et sur ce que l'on attend des femmes dans cet univers.
Bonjour Morgane, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Bonjour à vous toutes et merci de m'avoir invitée.
Qu'est-ce que tu as fait comme étude et dans quelle perspective ?
Alors, j'ai commencé par une première année de droit pour devenir huissière de justice et j'ai pas du tout aimé ma première année de droit, donc j'ai arrêté. Après ça, j'ai fait une licence de communication à Rennes 2. J'ai poursuivi sur le master 1 à Rennes 2, mais j'ai arrêté parce que ça se passait pas très bien. Et j'ai fini par faire le diplôme étudiant entrepreneur à l'IGR, juste à côté. Et en même temps, je suivais une formation de management opérationnel au Conservatoire National des Arts et Métiers.
D'accord, donc c'est par cette voie que tu t'es retrouvée à faire de la musique ?
Du tout, non. La musique, c'est pas quelque chose de professionnel pour moi. C'est pas de ça dont je vis, parce que c'est ma passion et j'ai jamais souhaité vivre de la musique. Et je me suis retrouvée dans la musique d'une certaine manière pour me professionnaliser quand même, parce qu'en fait, je voulais faire de l'événementiel. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'association Midweek, qui aujourd'hui est l'association Onde, dont je suis présidente. Et c'est plus ça en fait qui m'a fait rentrer dans la musique, c'est rentrer dans une association derrière.
Et tu avais pratiqué un instrument avant ou fait
ouais,
de la musique ?
J'ai fait du piano pendant 7 ans au conservatoire, ainsi que du chant, conservatoire municipal à La Baule. Et j'ai toujours été très sensible à la musique parce que mon père écoutait énormément de musique, il en avait toujours beaucoup à la maison. Et j'avais beaucoup d'amis aussi qui étaient musiciens, que ce soit électronique ou acoustique. Donc j'ai toujours baigné en fait dans ce milieu-là.
Et dans des influences plutôt différentes finalement ?
Très différentes. J'avais des potes qui avaient un groupe de rock, d'autres qui préféraient carrément le rap. Et des potes DJ qui du coup faisaient musique électronique. Et j'ai toujours ce spectre. Aujourd'hui je mixe musique électronique, mais j'ai un spectre très très large. Chez moi c'est relativement rare en fait que j'écoute de la musique électronique. Sauf quand je dois préparer une date, préparer un concert. Sinon, j'écoute principalement de la musique acoustique, en fait.
Et donc, du coup, quand est-ce que t'es devenue Vanadis ?
Alors, je suis devenue Vanadis par la force des choses. Donc, à l'époque, comme je le disais, je faisais partie de Midweek. J'étais bénévole chez Midweek. Je collais des affiches, j'étais à la billetterie sur l'organisation de soirées. Et puis, mon meilleur ami a rapatrié ses platines chez moi. Et j'ai commencé à mixer un peu comme ça pour m'amuser avant des soirées avec des copains. Et puis comme j'ai toujours été très curieuse, j'ai acheté beaucoup de musique différente. J'ai cherché des petites pépites, j'ai acheté des vinyles alors que je savais pas mixer sur platine vinyle, mais j'avais une petite platine d'écoute. Et puis en fait un jour, donc Greg, qui était président de Midweek, m'a dit « Bon bah dans 2 semaines tu joues au Barrick et il me faut un nom de scène pour demain ». Voilà comment je suis devenue Vanadis en une soirée en fait. Que je trouve un nom très très vite, c'était assez compliqué.
Et alors ça veut dire quoi ?
Alors Vanadis, c'est un autre nom de Freya, donc la déesse de la guerre et de l'amour dans la mythologie nordique. Et en fait, j'adore la mythologie depuis que je suis toute petite, j'étais passionnée par ça. Donc je suis allée dans la mythologie nordique parce que la mythologie grecque est plus vastement connue et je pense que voilà, on a... Enfin, je voulais un nom qui veuille dire quelque chose, mais qui ne veuille pas dire grand-chose pour les gens. Enfin, si on leur dit Freya, il y a certaines personnes qui vont connaître, mais peu. Alors que enfin, si on leur dit Athéna ou ce genre de choses, tout de suite, ça fait un petit son de cloche, on va dire. Mais à la base, ça vient du fait que j'adore les soirées déguisées. Ça, depuis toute petite, chaque anniversaire, je mettais un point d'honneur à trouver des thèmes super cool. Et notamment, quand j'ai commencé à aller en soirée techno ou ce genre de choses, je trouvais ça marrant de toujours porter des masques ou ce genre de choses, enfin de rapporter un petit grain de folie ou un petit grain de fête. Et Vanadis, c'est un des alias de Freya qui se déguise pour tromper ses ennemis. Et donc, ça rejoignait ma passion pour les déguisements et je me suis dit, tiens, c'est pas mal.
Et donc, après ta première expérience, comment t'as accédé à d'autres scènes ? Comment ça s'est passé ?
Ça s'est fait très facilement et sans que j'aie trop à faire d'efforts. Ça fait un petit peu Nana qui se tournait les pouces comme ça à le dire, mais d'une part, étant dans une association de musique électronique, donc Midweek, en fait, c'est devenu Onde. Donc moi, comme je disais, j'ai commencé en simple bénévole et au fur et à mesure, je suis passée responsable de la communication. Ensuite, j'ai fait beaucoup plus de production événementielle, ce genre de choses. Le fait d'être dans une association, ça permet de nouer des liens avec d'autres associations à Rennes qui elles-mêmes organisent et qui, en fait, font jouer. Il y a aussi le fait d'être une femme, c'est relativement rare. Donc ça ouvre certaines portes parce que certains festivals, certaines soirées sont à la recherche de plus de parité. Donc ils vont aller chercher justement les femmes qui font de la musique et se dire bah, tiens, elle ça vaut le coup, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment, ça s'est fait assez vite et assez naturellement, notamment avec le festival Maintenant qui m'a vite fait confiance. Enfin, ça faisait un an et demi que je mixais, ils m'ont programmé à la salle de la Cité avec un défi assez colossal à relever parce qu'il... En fait, le programmateur Gaëtan Naël m'a dit « Bon ben voilà, je sais que tu joues de la musique dure, mais moi je veux absolument te programmer et puis je sais que tu peux faire autre chose que de la musique dure. » Et je pense que c'est un peu ça qui m'a donné le déclic aussi d'aller chercher d'autres choses, de jouer plein de choses différentes et ce qui m'a permis par la suite d'accéder à des scènes de plus en plus grosses aussi, c'est que je restais pas fixée dans un style et que en fait quand on book pour une soirée, on se dit pas « Bah tiens, elle va faire tel genre de musique, en fait on sait pas exactement ce que je vais faire » et je pense que c'est ça qui plaît aussi.
Et donc du coup, ton quotidien, il se passe comment ? Enfin, tu te produis souvent, tu travailles à côté, tu passes plus de temps à produire tes sons ou à faire des sets
Je me produis assez régulièrement. Je pense si on fait une moyenne, ça doit être deux fois par mois. Après, il y a des mois avec plus, il y a des mois avec moins. C'est avant tout déjà sur la fréquence où je joue, c'est un choix de ne pas jouer trop souvent non plus. Il y a une époque où j'ai commencé à vraiment beaucoup jouer. Je jouais tous les week-ends, plusieurs fois, enfin même parfois plusieurs fois dans le week-end. Et je me suis retrouvée assez épuisée, parce que c'est quand même le milieu de la nuit, et c'est un sacré rythme à tenir. Épuisée déjà mentalement et physiquement, et surtout j'avais l'impression de ne pas avoir le temps d'aller chercher mes petites pépites, mes nouveaux sons, les choses qui vont surprendre les gens en fait. Et de toujours resservir la même soupe. Et je vois pas l'intérêt de faire une activité artistique si c'est pour toujours resservir la même chose. Pour ce qui est de la production des sons, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à produire. D'ailleurs, je produis pas du tout sous l'alias Vanadis, je produis sous un alias qui s'appelle DJ Pat 7. Parce que quand j'ai commencé à produire, c'était tellement misérable et tellement pas très propre en fait. Ça contrastait vraiment trop avec l'identité artistique que j'avais avec Vanadis. Voilà, quand on book un artiste, on va aller écouter ses productions. J'avais pas envie que certaines personnes se disent « Mais c'est complètement naze ce qu'elle fait en production, non mais on va pas la prendre. » Là, j'ai arrêté de travailler l'année dernière et je me suis du coup beaucoup plus concentrée sur la production en fait cette dernière année. Là, j'ai pas mal de sorties, j'ai fait 2 sorties en 4 mois, j'en ai une nouvelle qui arrive là et j'ai sûrement un EP qui va arriver d'ici la fin de l'année. Donc ça m'a permis de me concentrer un peu plus sur la production aussi ces derniers temps. Je consacre quand même beaucoup de temps à la musique, enfin, par semaine ça doit me prendre une 20aine d'heures quand même. Donc ouais. C'est pas rien.
Et donc tu as parlé de l'association Onde, est-ce que tu pourrais un peu nous présenter cet asso ?
Alors Onde, c'est une association qu'on a créée en 2016. Donc c'est la petite sœur de l'association Midweek dont je parlais avant. C'est une association qui a pour but la découverte musicale. Alors c'est très très bateau aujourd'hui de dire ça en 2020 parce que toutes les associations de musique électronique se veulent garantes de la découverte musicale. Donc on a une émission de radio toutes les semaines, tous les samedis soirs sur Syllab. À côté de ça, on a notre projet Immersion. Donc Immersion, c'est un projet interactif numérique qu'on a lancé en septembre 2019. C'est une carte interactive en fait qui répertorie les acteurs musicaux, que ce soit label, radio, collectif ou lieu, par ville. Donc c'est en France et ça commence à l'étranger pour le moment. Onde, c'est aussi une association de DJ, même si ça, à la base c'est pas le but, mais aujourd'hui on doit être 7 ou 8. Donc ça permet aussi de faire jouer des gens. Notre objectif, c'est de faire découvrir ces gens-là qui ont du talent au public rennais, voire plus quand on peut aller un peu plus loin.
Et donc, tu es très investie finalement dans la vie associative locale rennaise. Est-ce que tu trouves que c'est une ville qui bouge et qui bouge assez ?
Rennes, c'est une ville qui bouge énormément, et pas que sur la scène électronique, hein, sur la scène rock, dub, même le rap aussi, ça commence à beaucoup à revenir, je dirais, je pense. Ça bougera jamais trop, parce qu'à Rennes, on a la chance d'avoir une énorme communication entre les différentes associations et autres, et donc on se marche pas les uns sur les autres. On essaye de faire les choses intelligemment en bossant ensemble et justement en laissant de la place à tout le monde. Et c'est une ville qui est très 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 riche. Malheureusement, c'est une ville qui est très 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 pauvre en capacité d'accueil. Il y a peu de lieux qui accueillent du culturel. En fait, quand on ne fait pas partie des très gros, on est difficilement accueilli sur les lieux publics.
Et donc vis-à-vis des municipales, tu aurais toi des attentes plutôt sur la création de nouveaux lieux ?
Je pense qu'à Rennes, il faut des petites salles de capacité de 200 à 300 personnes parce que tout le monde n'a pas vocation à vouloir faire du festival ou du concert à 5000 ou 6000 personnes. Et je pense que outre la création de nouveaux lieux, il y a aussi la capacité d'accueil sur les espaces publics. Il y a eu le Mail François Mitterrand qui a été créé avec l'optique d'en faire un espace événementiel où il allait se passer des choses. Nous, on a organisé 2 années de suite lors du Mail Festival Le Hameau sur le Mail François Mitterrand. Il y a eu des plaintes du voisinage pour le bruit. On terminait à 22h. Rennes, c'est une des plus grosses villes étudiantes de France. Si les gens ne sont pas contents du bruit dans le centre-ville, il faut habiter en périphérie. Et je trouve que c'est un petit peu facile d'attendre toujours les propositions des acteurs culturels, parce que pendant des années, on nous a rabâché que la politique était l'affaire de ceux qui savaient pour nous le mieux. Et en fait, aujourd'hui, on part sur des consultations citoyennes. Je trouve que c'est des très très bonnes initiatives. Le budget participatif, par exemple, là, je trouve que c'est une excellente initiative. Je trouve que c'est bien d'aller consulter les gens, mais je pense qu'au niveau de la culture, il y a des choses qui paraissent assez évidentes à faire pour pas avoir besoin d'avoir des propositions des acteurs, en fait.
Et à propos des nuisances, donc tu disais que c'était très compliqué. Depuis 2013 à Paris, il y a un maire de la nuit qui a été élu par les usagers des établissements nocturnes pour inscrire la vie nocturne au cœur du débat public, et avec la création notamment de commissions de quartier sur la vie nocturne pour les relations entre riverains et acteurs de la vie nocturne. Est-ce qu'à Rennes, il ne faudrait pas créer ce poste-là, qui ait plus d'interaction avec les riverains ?
Je suis même pas sûre que le problème ce soit un maire de la nuit, parce que moi, quand je parlais de problème de nuisance, c'est des manifestations qu'on lui a en journée. Les gens qui se plaignent d'un événement de musique électronique parce que la musique a fait boum boum, mais qui ne se plaignent pas un dimanche matin d'une course à pied avec un speaker de 8h du matin jusqu'à 14h sur toute la place Charles de Gaulle et le boulevard de la Liberté, etc. Il y a un moment, il faut faire une demi-mesure. Enfin, y a une nuisance. Parce que dans la tête des gens, la musique électronique, c'est free party, c'est teuf, c'est drogue, c'est alcool et c'est dégénérescence. Mais sauf que ce milieu-là, il a largement évolué, il s'est institutionnalisé. Enfin, je pense que des associations à Rennes en sont quand même pas mal l'exemple. Si on prend le Big Love ou même les transmusicales qui vont de plus en plus vers de l'électronique, je pense que le problème, il n'est pas forcément sur les nuisances nocturnes, même si en ayant bossé au chantier, c'est pareil, on a eu des soucis de voisinage récemment. Je pense que c'est important d'avoir un discours entre riverains et acteurs, bien évidemment, mais de là à justifier la présence d'un maire de la nuit qui, je crois, mais faut me dire si je me trompe, de toute manière n'a aucun moyen d'action qui soit. Enfin, il peut rien faire, en fait, c'est juste une figure représentative pour faire joli et pour dire bon, ben voilà, il y a un maire de la nuit, maintenant on peut discuter. Est-ce qu'il y a vraiment des discussions ? Est-ce qu'il y a vraiment des décisions qui sont prises à l'issue de ces discussions ? Ça reste à prouver selon moi.
Et est-ce que tu penses que la musique électronique, de façon générale, a quand même gardé cette âme dont tu parlais, un peu underground, où aujourd'hui, comme tu fais le constat en France, ça se dirige plutôt vers un style soirée ?
Je pense que c'est oui et non, en fait. À la fois, il y a une espèce de généralisation de la musique électronique en club avec une uniformisation des line-up et de la programmation, avec toujours les mêmes têtes d'affiche, toujours les mêmes personnes qu'on voit jouer, certaines personnes qui, selon moi, sont des purs produits commerciaux, parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pour moi aucun talent et pourtant se retrouvent sur le haut de la scène. Et à la fois, justement, devant cette uniformisation, il y a de plus en plus de petites initiatives qui se font pour contrer ça. Et l'autre problème aussi, c'est pas forcément de la part des organisateurs, c'est de la part du public. Je suis pas très très vieille, ça fait pas très longtemps que je côtoie le milieu de la musique électronique, mais mine de rien, ces dernières années, j'ai quand même senti un certain... Je sais pas comment dire, il y a quand même une grosse partie du public qui aujourd'hui va écouter de la musique électronique sans regarder le DJ qui passe ou sans ceci, juste en fait pour aller faire la fête, juste pour aller en soirée. Alors avant on allait en boîte de nuit, maintenant on va en soirée de musique électronique parce que c'est un peu de tendance, ça fait 10 ans que ça revient sur le devant de la scène. Et le problème c'est que bah, ce public qui ne s'intéresse pas, ils vont voir que les gros noms et ils vont être contents que des gros noms. Mais comme en fait ils disent ouais moi je suis underground parce que j'écoute de la musique électronique, mais en fait s'ils écoutaient Fun Radio ou ce genre de choses, pour moi ce serait la même chose, parce que s'il y a une soirée où les DJ ils connaissent pas, ça peut être une soirée musique électronique ou ce genre de choses, ils vont pas aller écouter, ils vont pas chercher à comprendre qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est ils veulent du gros nom ou rien. Et il y a aussi la problématique qu'il faut pas oublier dans la musique électronique, qui est celle de la drogue et de l'alcool, et je pense qu'il y a aussi ce problème-là qui fait qu'il y a une généralisation de l'usage des substances en soirée de musique électronique, qui fait qu'aujourd'hui les gens portent de moins en moins attention à ce qui se passe pendant la soirée, ils veulent juste du gros son et puis un truc pour prendre leur substance, on va dire ça comme ça.
Maintenant, on voudrait parler un peu avec toi de féminisme et de la place des femmes dans le monde de la musique et le monde de la nuit. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ?
Je pense que, déjà, selon moi, le monde de la musique électronique, c'est un des milieux, je pense, dans la musique, enfin, un des milieux musicaux où ça va être le plus simple, je pense, d'entrer. Tout à l'heure, je faisais référence au milieu de la free party, de la rave. Faut pas oublier que c'est l'histoire de la musique électronique. Et la rave, c'est souvent accompagné des mouvements de tolérance envers les homosexuels. Donc ça veut dire déjà un certain respect, une certaine tolérance de l'autre. Et donc, assez facilement, enfin je veux dire, quand on arrive à laisser passer son homophobie, on arrive un peu plus à laisser passer son machisme. Enfin, souvent, ça va un peu de pair, d'ailleurs. Et je pense que la place des femmes dans le monde de la musique électronique et de la nuit en particulier, c'est... Je dirais pas que c'est difficile de se faire une place, dans le sens où je pense que tout le monde a la même attention, en fait, la même attention est portée à l'écoute et autres. Je pense que c'est plus la question de représentation du genre et de qu'est-ce que véhicule le genre. C'est-à-dire que... Une femme, on s'attend, comme dans plein de milieux, à ce qu'elle soit jolie, apprêtée, à ce qu'elle joue de la musique plus douce, peut-être un peu plus sensuelle, et à véhiculer une certaine image d'elle, alors qu'un homme, on n'attend rien de lui. Enfin, si on regarde les vidéos sur les réseaux sociaux des femmes DJ, je pense qu'il y a, je sais pas, 40 commentaires sur sa tenue, 50 commentaires sur la manière dont elle danse, une soixantaine sur la manière dont elle sourit, et peut-être aller 15 commentaires sur la musique qu'elle joue. Je pense que le problème de la place des femmes dans le milieu électronique, il vient pas des professionnels de la musique électronique. Moi, je me suis jamais sentie lésée par un technicien, par une équipe d'accueil ou par des producteurs de soirée ou quoi que ce soit. Je pense que le problème vient du public et de la représentation et des attentes qu'ils ont envers des femmes.
Et pour l'accès, donc tu dis que toi, tu as très bien été accueillie et que souvent c'était le cas. Est-ce que tu ne penses pas, par contre, que la vocation est plus difficile à naître chez une femme, dans le sens où pour certaines personnes, dont une essayiste américaine qu'on a eu l'occasion de lire, qui s'appelle Rebecca Farrugia, il serait plus difficile pour une femme de se faire une place dans le milieu des musiques électroniques, car celui-ci est clairement associé à la technologie dont les femmes ont traditionnellement été détournées. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration ?
Alors, je pense qu'il y a du vrai dans cette déclaration, dans le sens où effectivement les femmes elles ont souvent été détournées de ça. Et là, je pense que ça vient plus du côté de la femme, où souvent la femme se dit j'en suis pas capable. Ou alors, peut-être qu'on a un côté plus réfléchi, ou quand on va se lancer dans quelque chose, on va vouloir le faire bien. Et donc, avant d'oser monter sur scène et de se produire devant des gens, on va y avoir un chemin qui est beaucoup plus long que pour un homme. Mais Pour autant, je trouve pas que... Enfin, moi, on m'a jamais pris pour une idiote en essayant de m'expliquer à quoi servaient les boutons sur les platines ou sur une table de mixage. Je pense vraiment que c'est plus une préconception. Enfin, à partir du moment où une personne est sur scène, c'est que toutes ces choses-là, elle les maîtrise, en fait.
Il y a plusieurs collectifs musicaux uniquement féminins qui ont été créés. Est-ce que tu connais un peu des initiatives comme ça? Et est-ce que tu souhaiterais en faire partie ou en créer une?
Alors, j'en connais une en particulier qui s'appelle Female Pressure, qui est à Berlin. C'est des initiatives que je trouve très intéressantes parce que ça permet vraiment de dénicher des talents et ça montre aux femmes qu'il y a une place pour elles. Ça montre qu'il y a d'autres personnes qui osent le faire et qui, donc, s'il y a d'autres personnes qui le font, pourquoi pas moi, en fait. Voilà, c'est vraiment une manière de dire aux gens, tu peux exister. Tu peux exister et si tu souhaites exister, il y a des personnes qui peuvent te permettre d'exister et te guider pour exister. Enfin, ça peut faire peur en fait, tout ce monde-là, même le monde de la production musicale. C'est effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est très technique, c'est des logiciels qui ne sont pas forcément évidents à appréhender, mais que ce soit pour un homme ou une femme hein, d'ailleurs. Et c'est vraiment des petites communautés d'entraide en fait, qui sont pour moi importantes parce que ça permet de... Ouais, de renforcer les compétences des uns et des autres et puis vraiment d'aller chercher des petites pépites, de trouver des nouvelles personnes qui peuvent s'exprimer en fait.
Et donc toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une carrière de DJ, se tourner vers des associations, des collectifs comme cela?
Je pense que déjà pour se lancer dans une carrière de DJ, femme ou pas femme, le plus important c'est d'avoir un collectif ou une association ou un groupe de personnes qui nous entourent. Parce qu'une identité musicale, elle se construit pas toute seule. Moi, mon identité musicale et ce que je joue aujourd'hui, elle est le fruit de nombreuses rencontres avec de nombreuses personnes qui m'ont orientée vers plein de styles que parfois j'aimais pas au début et au final aujourd'hui j'adore ça. Et je pense que ouais, s'orienter vers ces collectifs-là, c'est bien aussi parce qu'il y a une notion d'anonymité aussi, le fait que ce soit en ligne. On ne va pas forcément rencontrer la personne. Donc pour les gens timides, bon, bah, c'est quand même moins difficile d'écrire sur son clavier d'ordinateur que d'aller rencontrer quelqu'un dans un café. Je pense que dans tous les cas, en fait, le conseil que je peux donner pour devenir DJ, c'est... alors là, pour le premier conseil, c'est ne fais pas ça pour l'argent parce que ça ne marchera pas. Et le deuxième conseil, c'est vraiment... de savoir s'entourer des bonnes personnes en fait, des personnes qui nous veulent du bien. Je pense qu'on a la chance d'être dans un milieu qui est pas tant compétitif que ça. Il y a des gens qui vont dire que c'est le contraire, mais je trouve qu'il y a une grosse entraide quand même entre producteurs, entre DJ d'une même région, d'une même ville ou même de même esthétique. Et je pense que c'est justement un milieu où il y a moins cette compétition. On cherche pas à faire disque d'or ou disque de platine ou d'être élu meilleur DJ au monde. Et c'est vraiment cette entraide et ces rencontres qui sont primordiales pour se construire en tant que DJ, quoi.
Et en parlant de conseils, on aimerait bien s'inspirer un peu de tes playlists actuelles. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Alors, en ce moment, je suis sur un revival de rap et de hip-hop des années 90, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de rap et de hip-hop. Je commence de plus en plus à en mettre dans mes podcasts et dans mes mix, d'ailleurs, pour pas laisser cette partie de moi ailleurs en fait. J'écoute en ce moment des vieux Nas, du NTM aussi, donc c'est plus pour la partie française. Sinon des disques qui me quittent jamais, il y a des albums de Pink Martini que j'écoute énormément. Sinon en ce moment j'écoute pas mal Archive, qui est un groupe de rock anglais dont je suis fan depuis toute petite aussi. En électronique, j'écoute beaucoup Hugo Massien, qui est un producteur français qui fait de l'électro-acide, que j'aime beaucoup. Sinon, il y a le projet d'un ami à moi qui s'appelle Simon, donc son projet c'est Asim. Pour moi, c'est un excellent, excellent producteur et j'adore tout ce qu'il fait, donc à chaque fois qu'il fait quelque chose, il me l'envoie et je saigne le morceau, comme on dit dans le milieu.
Et la question de la fin que l'on pose à toutes nos invitées, avant de se quitter, on voudrait savoir quel lieu tu conseillerais à quelqu'un qui vient de poser pour la première fois le pied en Bretagne.
Alors ça va faire très cliché, mais en fait moi comme je viens de la Gaule, je suis une fille de la mer, j'aime beaucoup le contact avec l'eau, J'ai besoin régulièrement de sentir la mer ou l'eau. Quand tu arrêtes, ça va pas, je vais me balader sur le quai de la Prévalès. C'est pas le plus joli, mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'eau. Et sinon, un lieu en Bretagne que j'adore et dont je me lasserai jamais, c'est la plage de la pointe de la gare Guérin à Saint-Briac. Parce que mon père est marseillais, donc méditerranéen, donc j'ai passé beaucoup de mes vacances en Méditerranée. Et la pointe de la gare Guérin, en fait, je trouve que ça ressemble un peu à la Méditerranée parce que l'eau est très claire et la roche est belle. Et c'est surtout un endroit qui n'est pas envahi de touristes parce qu'il est difficilement accessible. Et encore une fois, on est en venant de la Baule, les touristes, je les connais bien et je les ai pas mal supportés. Et j'aime bien pouvoir aller dans des endroits qui sont calmes et qui sont beaux aussi bien en été qu'en hiver.
Eh bien, merci Morgane de nous avoir rencontrés aujourd'hui.
Merci
pour cet échange.
Merci à vous en tout cas de m'avoir reçu.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou partager autour de vous. Pour plus d'informations concernant le contenu de ce podcast et pour des références liées à chaque épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Bretonne Podcast.